Gloire à Dieu. On aime tellement être dans la présence de Dieu, élever son nom, proclamer qu'il est puissant. Et on se réjouit énormément ce matin de pouvoir entendre comment Dieu agit aujourd'hui, en 2025, dans la vie des gens comme vous et moi, où Dieu agit encore, où il répond aux prières, où il intervient. On chante pas seulement un Dieu lointain de la Bible, mais on chante un Dieu qui aujourd'hui agit encore, et on se réjouit énormément vraiment de ce moment de témoignage. Et avant de poursuivre, vraiment que vous puissiez aussi capter un élan de foi qui va être donné. Si Dieu agit dans la personne qui témoigne, il peut agir dans ta vie aussi, à toi. Et puis que tu puisses être, qu'on puisse se laisser toucher par une audace, un élan de foi, vraiment de croire que si Dieu parle ou Dieu agit dans l'un ou l'autre, il peut le faire pour ta vie aussi, et il va le faire encore. Alléluia.
Et du coup, pour commencer, je voudrais accueillir Naomi et Thierry. Ils sont les premiers à venir témoigner ce matin. On peut leur donner de la force et du courage. Et on serait juste d'entendre ce que Dieu a fait pour eux dans des périodes de changement, de plan. Et comment ils ont pu faire confiance à Dieu.
Bonjour à tous. Je m'appelle Naomi et puis c'est mon époux Thierry. On est mariés. On est venu pour vous partager un encouragement puis aussi comment Dieu, à travers un changement en fait, nous a parlé. Donc il y a un mois, on a appris que j'étais enceinte. C'est toujours un miracle, c'est toujours incroyable de ce qui se passe. Ayant travaillé, ayant fait un peu d'études dans le domaine des soins, j'ai toujours été émerveillée par ça. Mais en fait, c'était pas un miracle prévu pour le moment. Ça nous a vraiment bouleversés. Ça changeait en fait tous nos plans de vie, de carrière, de suite d'études, etc. Donc en fait, on n'était pas très bien avec cette nouvelle. C'était un samedi, donc on a passé samedi toute la journée à se remettre en question sur qu'est-ce qui va se passer. On était stressés, on n'était pas bien, c'était vraiment un tremblement de terre en fait pour nous. Du coup voilà, je laisse la suite à mon mari.
Oui, je suis un petit peu stressé, mais... Et du coup on était aussi stressé tout le samedi, puisqu'on avait appris la nouvelle le samedi matin, donc on n'était pas très bien. Et puis le dimanche, je faisais les lumières. Je vous avoue que je n'avais pas très envie de venir à l'église. Enfin, j'avais envie de rester à la maison et puis déprimer un peu dans mon coin. Enfin, encaisser le choc, je dirais. Et puis du coup, on est quand même venu. Et ce jour-là, en fait, on a commencé la louange et puis il y a eu l'alarme incendie qui a sonné. Et puis là, c'était un moment un peu spécial. Comme je faisais aussi les lumières, j'essayais de regarder qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va arrêter le culte, est-ce qu'il faut que je rallume les lumières ou pas. Il y avait une partie de moi qui me dit non, c'est une fausse alerte, mais un autre côté où je me dis non, mais il y a un problème, tout va s'arrêter, tout s'écroule un peu, finalement comme ma vie. Enfin, c'est comme ça que je le voyais. Mais en fait, c'est pas du tout ça. J'ai vu une église, des gens qui étaient passionnés de Dieu, ils ont continué la louange. Et puis, pendant tout ce moment qui était perturbant, pas très agréable, on a continué à faire notre louange comme si de rien n'était. Et puis Dieu était là aussi pour nous, et ça c'était magnifique à voir et à vivre. Et je me suis dit, plutôt lui m'a fait comprendre que c'est ce qui se passait dans ma vie. J'avais l'impression que tout s'écroule, que c'était la fin de quelque chose, et en fait pas du tout. Même s'il y a des moments qui sont difficiles, il est là et que nous, on doit rester focus sur lui. Et finalement, cette alarme, ça a semblé durer une éternité. Mais quand ça s'est arrêté, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et j'ai trouvé la louange encore plus intense que s'il n'y avait pas eu cet événement. Et du coup, finalement, la conclusion du témoignage, c'est que pendant une journée, on a stressé beaucoup, on n'était pas bien. Et le lendemain, Dieu il a guéri nos cœurs, nous a montré l'amour qu'il a pour nous. Et grâce à ça, ben, c'est plus un accident, c'est plus un problème. C'est un sacré miracle et on est content.
Alors, ben, encore aujourd'hui, c'est clair que maintenant, ben, on le prend différemment, mais ça reste toujours, ça reste toujours un doute, ça reste toujours quelque chose où on n'est pas sûr du chemin qu'il va y avoir, mais on est sûr d'une chose, c'est que ben, voilà, c'était dans les projets, c'était dans les volontés de Dieu, et que ben, s'il a prévu ça, c'est qu'il a prévu le reste aussi.
Merci beaucoup, Naomi et Thierry. Gloire à Dieu. On se réjouit dans quelques mois de vous voir avec une petite. On accueille Julie. On peut l'applaudir.
Aujourd'hui, je vous apporte un témoignage sur ma semaine vécue en juin chez les sœurs de Grandchamp à Areuse. Une de mes amies me donne un flyer qu'elle a reçu de sa belle-sœur. Ce flyer parlait de faire environ 8 jours de retraite spirituelle en silence. Avec comme thème « Amour et pardon ». Ce sujet m'a tout de suite parlé. Mais je me suis dit, ça c'est fait pour moi. Le seul point où j'ai beaucoup hésité était que tout se passait dans le silence. Avant de m'inscrire, je prie pour recevoir une conviction de Dieu. Je reçois un oui total dans mon cœur. Arrivée là-bas, une sœur m'accueille. Puis, nous nous retrouvons tous dans la salle de classe. Nous étions 4 participants et 3 enseignants. Nous allons ensuite au culte avec la communauté. Le silence est absolu entre nous. Les repas également. Pour moi, c'est déjà difficile. Je me retrouve face à des gens sans pouvoir communiquer. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce silence. À 20h, nous avons rendez-vous en classe et l'on nous explique la raison de ce silence. Être seul à l'écho du Saint-Esprit, sans être influencé par quiconque, en fait, c'est quitter notre vie, nos amis pendant ce temps. Mes larmes coulent, je me sens angoissée, je me demande vraiment qu'est-ce que je fais là. Une enseignante me rassure, me disant « Dieu est là, tu n'es pas seule. » Le lendemain, journée encore difficile. J'ai envie de rentrer. Je pleure et je pleure encore. J'appelle mes amis qui essayent de me réconforter. Le soir, je m'en vais à la plage avec la musique dans les oreilles. Glorious à fond. Je chante, je danse dans la forêt. Ouh, je me sentais mieux. Sur le chemin du retour, je crie à Dieu en lui demandant « Mais pourquoi je pleure? Mais pourquoi je me sens si mal ?» J'entends Dieu me dire qu'il est vrai vraiment que je lâche prise afin qu'il puisse vraiment œuvrer en moi, qu'il est là avec moi et qu'il ne me lâchera pas. Je me sens vraiment bien et réconfortée. Le lundi, nous commençons l'anamnèse des pardons. Nous devons cibler les personnes, les circonstances et les actes pour chacun. Il nous explique bien que le pardon, ce n'est pas oublier, mais que c'est libérateur pour nous. Le mercredi, les enseignants nous invitent à prendre le repas avec Jésus, seul dans notre chambre, et de choisir un verset selon ce qu'ils avaient préparé. Je choisis le texte de Luc 5, versets 1 à 11. Jésus me parle. Au début de la retraite, tu étais vraiment triste, dépité. Et tu m'as obéi et fait confiance en jetant les filets à l'eau comme Simon-Pierre. La pêche fut fructueuse par le fait d'être resté à Grandchamp et de pouvoir accorder de nombreux pardons. Je rends gloire à Jésus. Le vendredi, mes écrits de pardon ont été brûlés devant deux témoins et devant Dieu. Je me sentis tellement libérée et réjouie. Merci Seigneur. Pour terminer, j'aimerais vraiment remercier mon Dieu Tout-Puissant. Il est toujours là et nous pouvons lui faire confiance dans n'importe quelle circonstance, aussi difficile soit-elle. Même si parfois nous marchons dans le brouillard et que nous ne voyons qu'une balise, continuons d'avancer avec Jésus, car lui seul sait où nous allons. Et oui, j'ai réussi ma semaine de silence, mais après je me suis bien rattrapée. Hein.
Merci Julie pour ce partage. Je trouve ça trop beau de voir ce que Dieu y fait quand on ose lui faire confiance et qu'on fait ces pas de foi qui sont un peu stressants, mais merci à Dieu de ce qu'il a fait. Et maintenant, je voudrais accueillir André.
Bonjour à tous, je m'appelle André. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de témoigner par rapport à la fin de mes examens, surtout ces derniers mois, parce que c'était une expérience, un peu une sorte d'aventure que je vais maintenant expliquer. Mais avant ça, je voulais un peu partager de comment j'ai découvert ici l'église, parce que je pense que ça va aider aussi pour le témoignage. Donc, je suis arrivé ici dans cette église l'année passée, en février, pendant une période où ça faisait deux ans que je n'allais pas du tout à l'église, où je me suis isolé complètement, je ne voulais pas faire partie d'une église. Alors que j'ai grandi dans l'église, j'ai vécu dans l'église, mais pendant ces deux ans, aussi suite au Covid et aussi d'autres situations, je me suis éloigné complètement de l'église et je voulais un peu être dans ma bulle. Mais pendant cette période, Dieu, il m'a mis à cœur de vraiment retourner à l'église un jour et moi, je ne voulais vraiment pas. Donc Dieu, il a trouvé une façon de m'amener à l'église par un ami à moi qui n'est pas du tout chrétien et qu'à la période, il s'intéressait à venir à l'église. Donc il m'a envoyé un message, il m'a dit « Est-ce que ça t'intéressait de venir à une église à Neuchâtel ?» Moi, je connaissais un peu Neuchâtel parce que je faisais ici mon apprentissage. C'est ça que je vais parler après. Et en fait, je connaissais un peu la région parce que j'avais le CPNE qui est juste là à côté de la Maladière, l'école. Et on arrive ce dimanche pour venir au culte. On avait du temps, donc j'ai dit à mon ami, j'ai dit, est-ce qu'on descend pas au lac un peu pour attendre que le culte y commence? Et moi, je l'ai amené au chemin que je prenais pour aller à l'école toutes les semaines. Et quand on commence à descendre, c'est juste là par derrière. Et on arrive à l'intersection juste là devant. Et lui, il me dit, ah, l'église, elle est là. Et en fait, l'église, elle était dans le chemin que je prenais toutes les semaines. Mais j'avais jamais vu que l'église, elle était ici. Alors que je passais vraiment ici devant, quoi. Donc ça m'a touché. On est venu ici au culte et ça m'a vraiment, le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé. Et donc, je suis retourné. Et maintenant, je fais partie de l'Église. J'ai aussi la chance de pouvoir aussi servir ici. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup au cœur, que Dieu il m'a guidé ici, quoi. Maintenant, pour mon témoignage de mon CFC. En fait, c'est surtout par rapport à ma troisième année. Parce que la troisième année, en fait, je fais un CFC en tant que technologue en production chimique et pharmaceutique, ici à Neuchâtel, dans une entreprise pharmaceutique à Pierre-Rabeau. Et en fait, quand cette troisième année est arrivée, le début de la troisième année, on prend la nouvelle, les apprentis de mon année, que tous les apprentis de l'année précédente, ils avaient raté l'examen. Donc, pour nous qui arrivent à troisième année, quand on doit se préparer pour les examens, de savoir qu'en fait, tout le monde avait raté l'examen, ce n'était pas vraiment la meilleure morale pour nous. Et en fait, pourquoi ils avaient raté? Ce qui s'est passé, c'est que quand le CPNE, l'école ici à Neuchâtel, ils ont fait cette formation de technologue, ça fait il y a 4 ans qu'ils ont fait la formation. Et en fait, quand ils ont fait, ils n'avaient pas vraiment la fondation, ils n'avaient pas vraiment les bases nécessaires. Et donc, la formation qu'ils nous ont donnée, ce n'était pas exactement ce qu'il fallait par rapport au Valais, que c'est où ils ont créé la formation, c'est où il y avait l'examen. Donc, les apprentis, quand ils sont arrivés au Valais pour faire l'examen, ils ont compris qu'en fait, ce n'était pas du tout ce qu'ils avaient vu. Donc, ce n'était pas facile pour nous d'arriver dans cette troisième année et d'avoir ça comme nouvelle. Mais moi, j'ai beaucoup prié, j'ai vraiment dit à Dieu, j'ai tout donné à Dieu, j'ai vraiment mis dans ses mains. Et lui, il était avec moi pendant toute cette troisième année dans différentes situations. Mais là, je vais vraiment me focaliser sur l'examen final. Et en fait, la solution que les CPNU ils ont trouvée, parce que pendant toute la troisième année presque, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ils ne sont pas posé des questions, ils ne sont pas dit qu'il y avait un problème. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'était de nous envoyer 3 semaines au Valais, ça, 4 semaines avant l'examen. Donc on allait rester 3 semaines là-bas. Après une semaine, on retourne et après c'était l'examen directement. Donc moi, je devais préparer parce que j'habite très loin du Valais. C'est 7 heures de train aller-retour. Donc moi, je devais rester là-bas au Valais pendant 3 semaines. Et donc j'ai essayé d'organiser tout ça. J'ai parlé avec David et lui, avec lui, je lui ai expliqué la situation. Il a pu contacter une église là-bas et eux, ils ont trouvé un couple qui pourrait me garder pendant les 3 semaines. Qui m'ont contacté et moi j'ai accepté. Mais pour être honnête, c'était pas facile non plus d'accepter parce que je suis quelqu'un qui n'a pas trop de facilité à socialiser. J'aime bien mon petit espace. Et aussi avec tout le stress de l'examen et tout, de devoir aller dans un endroit avec des inconnus, c'était pas vraiment facile. Mais de nouveau, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup donné à Dieu et Dieu, il m'a gardé dans différentes situations, dans ça aussi. Et quelque chose que c'était assez. Je trouve que j'étais vraiment béni dans cette famille où j'étais accueilli. Déjà, quand je suis arrivé, la chambre qu'ils m'ont montrée, ça ressemblait beaucoup à ma chambre. Et c'est assez intéressant parce que ma chambre, c'est assez spécifique. C'est dans un comble, dans un grenier. Donc le toit, il descend et tout. Et quand j'arrive dans cette chambre, ça ressemble à la mienne. Je me dis, OK, je peux me sentir un peu à l'aise ici. Il y avait encore d'autres petits détails aussi qui m'ont aussi aidé à m'adapter assez rapidement. La famille aussi, qui avait environ l'âge de mes parents. Ils étaient aussi chrétiens. Donc des petits moments que j'avais d'échange avec eux, c'était aussi fort pour moi parce qu'on parlait de Dieu et c'était quelque chose qui m'aidait aussi dans cette situation difficile. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé à l'école là-bas pendant les 3 semaines, direct le premier jour, on a remarqué la différence. On a remarqué la différence de niveau. Même les profs là-bas, ils étaient choqués. Comment on était loin de ce qu'il fallait, quoi. On était vraiment en retard. Et essayer de tout rattraper 4 semaines avant l'examen, ce n'était pas vraiment évident. Donc, moi, j'ai passé tout mon temps libre à réviser. J'ai révisé. Essayer de rattraper 3 ans en 3 semaines, ce n'est vraiment pas évident. Je peux dire que physiquement, ça faisait très très mal aussi parce que ma main, à la fin des 3 semaines, je l'ai mis sous glace. Tellement ça faisait mal d'écrire parce que je prenais vraiment tout le temps d'écrire. Tous les week-ends, j'étais en train d'écrire pour des résumés. Donc, c'était vraiment pas facile. En termes mentaux aussi, c'était pas évident. Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis vraiment demandé à Dieu, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? Parce que je vois pas de sens actuellement dans tout cela, quoi. J'ai même pensé à arrêter plusieurs fois, d'arrêter, de recommencer de nouveau parce que c'était tellement de matière que je devais tout rattraper à ce dernier moment que ce n'était pas vraiment facile. Et je me souviens à la veille de l'examen, juste le jour d'avant, je suis en train de prier et j'ai dit à Dieu, Dieu, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai vraiment tout mis ce que j'avais. J'ai plus de force, ma main, c'est témoin. Et j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant c'est ta volonté, Seigneur. Et c'était ça aussi que ça m'a aidé aussi pour l'examen, c'était de savoir que même si je rate, Dieu, il était là pour moi. Même si je tombe, Dieu, il était là pour me soutenir, pour m'amener de nouveau dans les conditions. Donc moi, je suis allé faire l'examen. Dieu, il m'a béni avec la réussite. Et non seulement la réussite de l'examen, j'ai aussi eu la meilleure moyenne générale du canton de Neuchâtel en tant que technologue. Donc... Et ça démontre aussi comment Dieu il était là pour moi pendant les 3 ans, ou aussi le fait de venir dans cette église, que Dieu il m'a guidé dans cette église, ça m'a beaucoup aidé, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes ici dans l'église qui ont prié pour moi, qui ont pris des nouvelles, et qui étaient vraiment là pour moi comme une famille. Et ça m'a aussi aidé beaucoup de ne pas rester dans ma bulle, parce que si ce n'était pas pour ça, j'étais dans ma bulle, j'étais enfermé, isolé avec mes pensées, ça aurait été pire. Aussi, l'église a ouvert les portes aussi pour cette famille qui m'a accueilli aussi, que c'était une bénédiction dans ma vie aussi. Dans ce moment-là, c'était vraiment au moment exact. Et je peux dire que ma famille aussi, il a beaucoup prié, mes amis aussi. Et c'était vraiment c'était très dur, mais Dieu, il était toujours là avec moi dans tous ces moments. Et des fois, on ne voit pas les portes, mais on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Mais Dieu, il y a toujours un chemin qu'on voit des fois à la fin et qu'au moment qu'on en est mal, on ne voit pas forcément, quoi. Il y avait un chapitre que je voulais lire dans Psaume 139. Oh putain, je l'ai perdu. Attendez une seconde. Non. C'est quelques versets qui m'ont beaucoup aidé. C'est Psaume 139, du 7 au 12, et après du 23 au 24, et je vais vous lire. « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Et après le 23 et le 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est des versets qui m'ont beaucoup aidé pendant les 3 ans et que j'ai vraiment senti ça à la fin, quoi, où je ne voyais vraiment pas le chemin, je ne voyais pas vraiment tout ça. Et c'est comme ça que j'ai envie de finir. Des fois, on a des situations qu'on voit... C'est impossible, on trouve que c'est impossible de s'en sortir. C'est vraiment... On est entouré des ténèbres, mais c'est dans ces moments-là que Dieu il brille le plus. c'est quand la nuit devient jour pour lui, quoi. Donc, ouais, c'est pour finir avec ça que dans toutes les situations, Dieu est avec nous. Même si on rate, Dieu est là pour nous soutenir. Amen.
Merci André. Et on m'a dit dans l'oreillette qu'en plus, tu as été engagé, donc tu as eu le boulot et tu viens de trouver un appart encore. Donc toutes les portes sont ouvertes d'un coup. C'est vraiment glorieux. Super. J'appelle Samuel qui va témoigner. On peut aussi l'applaudir.
Bonjour tout le monde. Par où commencer? Pour ceux qui me connaissent, je travaille à la COP à la maladière depuis 2 ans. Je suis payé à l'heure et c'est vraiment pas évident financièrement autant que pour ma femme et moi. Et il y a 4 mois, ma femme, elle me dit dans la voiture comme ça, ah si jamais dans 9 mois on sera 4. Je t'ai ok. Et bizarrement, j'ai eu aucun stress alors que financièrement c'est... C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça va. Et elle me dit, tu stresses pas? Je fais, non, ça ira, t'inquiète pas. Et puis, il y a quelques jours, on faisait des postulations. Enfin, ma femme, elle m'aide, ma mère, elle m'aide, mais aussi. Enfin, ça fait 1 an que je fais des postulations, je ne trouve rien du tout. C'est une catastrophe. Mais à la maladie, je suis payé à l'heure, et puis les heures, elles baissent. Donc du coup, il y a des semaines où je me retrouvais à bosser qu'un après-midi. Donc c'est un peu la cata. Ma femme, elle travaille à 100, maintenant un peu moins du coup. Et la COP à Madière m'a envoyé à COP City à Neuchâtel pour les aider, pour me faire un peu plus d'heures. Et puis ils m'ont demandé de venir bosser pour eux à un poste à 100%. Et au fond de moi, j'avais vraiment aucune paix. Je sais pas, je le sentais pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais demander à Dieu. Je prie, je demande à Dieu, et puis je fais ça pendant 2-3 jours pour vraiment être sûr. Et puis j'ai aucune paix dans mon cœur, vraiment. Donc du coup, ce que je fais, je refuse le poste à 100%, je fais confiance à Dieu. Et je devais encore bosser encore un jour pour les aider. Et puis il y avait la grande chef du rayon alimentaire, et elle me dit en fin de journée, ouais, en fait, je te veux vraiment. Donc du coup, elle a tout fait pour que je revienne. Et finalement, je remets ça entre les mains de Dieu. Et là, j'ai une paix énorme qui vient dans mon cœur. Et j'accepte le poste parce qu'ils me refont une offre, une deuxième offre. Tout ça en me montant encore plus le salaire pour que je sois bien financièrement avec ma famille et en étant bras droit de la chef. Voilà.
Trop beau. David. Merci Samuel pour ce témoignage. Et après avoir entendu ces 2 témoignages qui parlent un peu du monde professionnel, on avait à cœur de prendre un moment de prière pour toutes les personnes qui sont dans une situation professionnelle où ils auraient besoin de voir la main de Dieu, que ce soit au niveau scolaire, dans leur apprentissage, au niveau de la recherche du travail. Et du coup, si vous êtes d'accord qu'on puisse ensemble prier pour des personnes qui seraient concernées, on va y aller. Et Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait dans la vie de Samuel et de André, et que les paroles qui ont été annoncées sur ce que tu as fait dans leur vie aient un impact, qu'elles ouvrent des nouvelles portes dans la vie des personnes qui auraient besoin que tu interviennes à ce niveau-là, que tu leur donnes la foi de recommencer à prier si jamais ils ont arrêté de prier, que tu leur redonnes le courage d'y continuer à croire, que tu ne les abandonnes pas, et que tu leur donnes des indices, que tu donnes ta paix. Et vraiment, je veux vraiment que les portes au niveau professionnel s'ouvrent dans le ciel et se montrent sur la terre, qu'il y ait des opportunités qui arrivent, qu'il y ait des idées nouvelles qui germent, qu'il y ait des changements dans des espaces aussi professionnels où ça ne se passe pas, que Saint-Esprit, tu viennes et qu'il y ait un déclic, qu'il y ait un changement d'atmosphère dans les lieux de travail et aussi dans nos perspectives, que tu nous donnes cette foi de oser faire des pas et de oser t'écouter. Je voudrais vraiment bénir toutes ces personnes dans le nom de Jésus. Recevez la paix, recevez la foi et le courage de continuer. Que Dieu ne vous abandonne pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Et on veut poursuivre avec... Attendez, pardon. Michel. On peut l'accueillir aussi en applaudissant.
Bonjour. Alors, moi, j'ai plus de travail. Mais je suis à la retraite. Ouais, depuis le 1er juillet. Et justement, j'ai travaillé 37 ans dans les soins, à domicile, 31 ans, et encore à l'hôpital avant, plusieurs années. Ce qui fait que physiquement, j'ai eu un peu des soucis avec ce bras, cette épaule, la nuque, tout ça, porter les sacs, porter les gens, c'est tout ça. Et je suis assez fragile de là. Et comme j'ai fini mon travail, je me suis aussi dit que ma voiture, elle arrivait au bout. Et je me suis acheté une nouvelle voiture. Et malheureusement, je n'arrivais pas à trouver la position adéquate dans cette voiture pour que j'aie pas mal. En fait, c'est compliqué les voitures parce que vous pouvez lever le siège, vous pouvez reculer, vous pouvez reculer comme ça, puis il y a encore le volant qu'on peut bouger. Donc ça faisait quatre choses pour essayer de trouver la position. Et puis j'arrivais pas. En fait, plus ça allait en avant et plus je me bloquais complètement la nuque. J'arrivais plus à tourner la tête, j'arrivais plus à faire des marches arrière. Même que j'ai de la caméra recul, mais c'est qu'il faut quand même mieux quand même de regarder un petit peu derrière. Et puis j'étais triste, puis c'est dommage quoi, j'ai une nouvelle voiture et puis je suis bloquée. Ça m'était arrivé une fois déjà avec l'ancienne quand le mécanicien avait changé mon siège, puis après j'ai été bloquée, j'avais dû aller chez le médecin d'urgence. Bon, c'est pas des graves maladies hein, mais je me suis dit je vais quand même rendre gloire à Dieu pour ça parce qu'il voilà, il a quand même agi. Et il m'avait mis des marques rouges, savoir comment fallait remettre le siège et tout. Donc je savais que c'était ça. Puis un soir, je rentrais avec une amie et puis j'étais découragée. Et j'ai dit, mais j'aimerais bien que tu pries pour moi. Est-ce que tu peux m'imposer les mains? Et puis elle me dit, je ne fais pas ça très souvent, mais ouais, ok, je veux bien le faire. Et puis elle a prié. Et puis elle a prié aussi que le siège, que ça soit ok comme il est. J'ai juste encore un petit peu bougé et tout ça, puis voilà. Mais j'ai eu aussi la foi, mais j'avais toujours mal. J'arrive à la maison, je me couche, j'ai dit, purée, ça va beaucoup mieux. Alors j'écris vite un petit WhatsApp. Et puis le lendemain matin, j'avais plus du tout mal. Et j'ai plus mal, et la voiture, elle va bien. Et si je raconte ça, c'est vrai que ce n'est pas un grand miracle. Mais c'est aussi pour encourager cette personne et d'autres qui n'osent pas prier, des fois pour les gens, parce qu'on a peur que ça ne marche pas, et puis que les gens soient déçus ou qu'ils nous en veuillent et tout. Et je me dis non, nous en fait, on doit prier, c'est Dieu qui guérit de toute façon, ce n'est pas nous. Et j'avais ce verset à cœur qui est dans Actes 10, 38, que Dieu a oint de puissance, enfin d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Et c'est vraiment ça, il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi cette puissance. Et demandons à Dieu vraiment d'être loin, pour pouvoir, quand on prie aussi, qu'on voie des miracles. Voilà.
Merci beaucoup, Michel. C'est génial de voir que Dieu agit, que Dieu intervient, que Dieu guérit aujourd'hui encore. Et moi, j'ai vraiment envie qu'on puisse capter cette foi de voir que Dieu guérit, que Dieu répond. Et je crois que j'avais vraiment à cœur qu'il y en a plusieurs sûrement qui ont peut-être des douleurs, qui sont peut-être malades aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se lève tous maintenant. Avant, on aura encore un témoignage après. Mais peut-être levons-nous un instant tous ensemble à notre place. Et les personnes qui auraient besoin d'une prière au niveau physique, puisse simplement lever la main et puis que les gens qui sont autour de vous puissent prier pour vous, afin que l'onction de guérison puisse vraiment se manifester. Seigneur, on croit que tu guéris aujourd'hui. Et Seigneur, on est heureux de voir que tu trouves des places de travail, que tu réponds, que tu donnes la faveur pour les examens, que tu agis, que tu donnes une nouvelle confiance en soi. Et on croit que tu es celui qui guérit aujourd'hui encore, comme tu l'as fait dans le passé. Merci Seigneur pour ce témoignage de Michel. On saisit, Seigneur, cette foi. Et Seigneur, on veut prendre ce temps maintenant pour que les malades soient guéris au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez besoin de prière, levez la main là où vous êtes, et puis qu'on puisse, les gens qui vous entourent puissent prier pour eux. Voilà, prenons ce moment. Alléluia. Seigneur, on a chanté avant ton précieux sang et t'as pris à la croix, Seigneur, non seulement nos manquements, nos erreurs, nos péchés, mais aussi nos maladies, aussi ce qui nous tient enfermés, liés. Et Seigneur, on proclame que tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit physiquement, qui guérit intérieurement dans les cœurs, tu es celui qui libère de tout schéma de pensée ou ce qui nous oppresse ou nous enferme. Et je proclame cette puissance qu'il y a dans l'œuvre de la croix. La puissance, parce que tu as versé ton sang et tu es mort pour ces maladies qui essayent de nous avoir. Tu es mort pour ces oppressions qui essayent de nous anéantir. Et tu es mort pour les péchés dans lesquels l'être humain sombre. Et Seigneur, je proclame ta puissance de vie, de salut, de guérison. Merci pour ces prières qui sont venues. Merci pour ce témoignage de Michel. Et Seigneur, on saisit par la foi que ces prières qui ont été faites maintenant, Seigneur, ce n'est pas des gens qui guérissent, mais c'est toi qui guéris. Parce que tu nous as donné à tous l'autorité de prier pour qu'on soit guéris. Amen. Amen. Et on va poursuivre encore par un dernier témoignage. Je donne la parole à Diane.
Bonjour. Alors, mon témoignage était déjà préparé pour le 2 février. On a fait un culte pépite où on a ramené un petit peu des choses qu'on avait vécues suite à la lecture d'un livre qu'on avait en groupe ressources à lire. Et je n'ai pas eu l'occasion de le partager. Et puis, je me suis dit, pas grave, je le garde au chaud. Alors, je vais vous le délivrer aujourd'hui. Donc, mon témoignage repose vraiment sur un passage que j'ai lu dans ce livre. Montre-nous le Père de David Terry, et ça m'a percuté d'une manière forte. Et ça a amené, en fait, ça m'a amené à vivre un déclic dans un blocage que j'avais de manière inconsciente dans ma relation avec Dieu le Père, et qui avait aussi une incidence sur ma vie quotidienne. Il a mis le doigt sur un système de pensée que j'avais forgé en moi comme une forteresse, qui a laissé vraiment au diable le droit de m'influencer sur ma manière de me comporter dans ma relation avec Dieu. Et j'aimerais citer deux phrases que David Terry pour introduire mon partage ce matin. Il dit « De chaque conception que nous avons de Dieu découlent des sentiments et des comportements. À cause d'une mauvaise image de Dieu, nous avons un comportement qui en découle qui est faux. Et c'était exactement ça. J'ai réalisé qu'inconsciemment, j'avais une mauvaise image de Dieu en lien, en fait, avec une expérience que j'ai vécue durant mon enfance, avec mon papa terrestre. Le Saint-Esprit a aussi mis, m'a permis aussi de découvrir qu'en fait, enfui en moi, et même de manière inconsciente, consciente, des pensées qui tournaient tout le temps, qui étaient en lien, en fait, avec cette image, cette mauvaise image de Dieu. Et en moi, j'avais ces pensées que Dieu avait besoin de moi, que je devais trouver des solutions quand il y avait des problèmes, que je devais moi-même trouver la solution, que ça dépendait de moi, que je n'avais pas droit à l'erreur, que j'étais responsable pour beaucoup de choses. Et pourtant, je le sais, Dieu, il est mon soutien, ça fait longtemps que je suis chrétienne, et j'ai vu Dieu agir, j'ai vu des exaucements de prières, miraculeux, et je sais que Dieu, il a la solution pour tout. Mais, en fait, en moi, je n'arrivais pas à intégrer cette vérité totalement. C'est comme dans des moments de stress, ces pensées, elles étaient toujours là, elles s'amplifiaient toujours plus. Et quand j'avais beaucoup à gérer dans plusieurs domaines de ma vie, j'ai commencé à me sentir sous un poids d'oppression. Et en fin de l'année 2024, ça a été une période pour moi assez chargée de défis dans plusieurs domaines. Plein de responsabilités, projets à assumer, changement d'équipe dans mon autre travail, coaching d'équipe qui a beaucoup touché mes émotions et d'autres aspects de la vie quotidienne qu'il ne faut pas oublier, vie de famille et tout ça. Et tout ça, ça m'a beaucoup étirée, beaucoup sollicitée. Alors vous pouvez imaginer le tableau. J'ai commencé à être épuisée intérieurement d'une manière super intense et j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et je me suis dit, je suis en train de faire un burn-out, c'est pas possible. Et dans cette période, on lisait ce livre, « Montre-nous le Père ». Et là, il y a un autre passage qui m'a percutée. Et ma conscience s'est comme ouverte sur la raison profonde de cet épuisement que j'avais. Dieu m'a révélé comme je le percevais, une image fausse, comment je me sentais par rapport à lui et quel comportement j'avais finalement à cause de ça. Et il m'a aussi montré comment il était, lui, vraiment. Et j'aimerais vous partager ce passage, justement, de ce livre. C'est vraiment un passage qui m'a... En le relisant encore l'autre jour, je me suis dit, waouh, il est fort. Donc, si jamais, pour ceux qui ont, pas, qui ont le livre chez eux, c'est la page 103. Donc, David Terry dit, « Dieu ne cherche ni esclave ni serviteur. Il a déjà des millions d'anges à son service. Il nous a adoptés pour nous couvrir de son amour extravagant, nous chérir et nous remplir de son esprit d'adoption. » Et plus loin, il dit, « Vous n'avez pas besoin de travailler comme des esclaves dans les champs. » Il fait référence à la parabole des deux fils, « pour recevoir l'affection de votre Père. Restez au calme dans ses bras. C'est votre privilège d'enfant de Dieu. Puisqu'il est responsable de prendre soin de vous. » Souvent, nous essayons de l'aider parce que nous doutons de sa fidélité. Et ces deux phrases, croire que Dieu est un Père responsable et digne de confiance, est une attitude qui l'honore, mais qui déclenche aussi son intervention. Et en lisant ce texte, je me suis aperçue en fait que je ne me sentais pas comme cet enfant de Dieu ancré dans une confiance totale en lui. Et en fait, je m'activais pour m'apaiser, apaiser des peurs. Alors j'ai dit à Dieu, mais pourquoi il y a ce décalage? Je sais que tu es fidèle, je sais que tu as les solutions, et pourtant, je m'active, je m'excite, je me soucie, Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Et là est ressurgi un souvenir d'enfance, et j'ai compris pourquoi j'avais toutes ces pensées dans la tête, en fait. Alors je vais vous partager ce que j'ai vécu. C'est pas dramatique, mais ça a laissé une empreinte. Alors, c'était chez nous, on habitait un village et j'avais des lapins. Donc, un après-midi, je vais voir ma petite lapine et je la vois qui commence à s'arracher les poils. Donc, j'étais une toute jeune enfant, quoi. Et j'ai cru qu'elle était en train de se manger elle-même. J'étais impressionnée. Je me suis dit, mais purée, qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de s'arracher les poils, elle va arriver à la chair, quoi. Et moi, toute petite, petite fille, j'ai été prise de panique. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve mon papa, il faut que je lui en parle, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai cherché partout, et je ne l'ai pas trouvé à la maison, j'ai été ici et là. Et finalement, je l'ai trouvé, il était au restaurant en train de boire un pot avec ses potes. Et quand je lui ai raconté ma situation avec mon lapin, j'ai dit, mais il se passe ça. Et il me dit, mais c'est rien, t'inquiète pas. Alors ça ne m'a pas du tout rassurée, parce que c'est rien, t'inquiète pas, ce n'est pas la raison pour laquelle mon lapin s'arrachait les poils. Il n'y avait pas d'explication, j'étais vraiment pas du tout en paix avec ça. Et il n'est même pas venu me voir, mon lapin, qu'est-ce qui se passait. Il n'a même pas voulu, il était devant son verre de vin, et voilà. Alors j'ai dû trouver, par mes propres moyens, la solution à mon problème. Heureusement, on avait des voisins qui avaient une dizaine de clapiers à côté de chez eux, et je me suis dit, il faut que je leur demande qu'est-ce qui se passe. Je ne connaissais pas la raison du problème. Et là, ils m'ont expliqué, mais ton lapin, c'est une femelle, elle aura des petits, elle est en train de faire un nid douillet, elle arrache ses poils, ça va faire quelque chose de tout douillet. Et à cette nouvelle, qui était merveilleuse, hein, bien sûr, la panique était toujours là, en fait, parce que ça a laissé des traces, en fait. Mon papa, je me suis sentie blessée, en quelque sorte, sans forcément prendre conscience sur le moment, que le fait que mon papa ne soit pas venu m'aider, ne soit pas venu m'expliquer, lui, me rassurer, ça m'a fragilisée. Et là, j'ai dit à Dieu, ce souvenir, il revient à la surface. Je comprends, en quelque sorte, pourquoi j'ai besoin de toujours trouver des solutions, en fait, aux problèmes, quand les problèmes me viennent contre. Et avec l'aide de Dieu, j'ai pu choisir de pardonner à mon papa, de ne pas m'avoir rassurée, de m'avoir laissée dans la peur, de m'avoir laissée seule aussi trouver des solutions. Et c'est devenu une évidence pour moi que le sentiment de responsabilité était lié en fait, à ce souvenir-là. Comme je me sentais responsable, donc je devais, moi, me débrouiller, toute seule. Et en fait, dans ce temps de prière, j'ai aussi vu Dieu qui était là, dans cette situation, mais qui était statique, qui ne bougeait pas. Et c'est comme si, comme mon papa ne s'est pas bougé, n'est pas venu à ma rencontre, n'a pas essayé de m'aider, d'aller voir le clapier, comme ça se passait et tout ça, j'ai comme eu cette même image, Dieu, il est là et il ne bouge pas. Donc au fait, quand les choses arrivent, je peux bien prier, mais j'ai l'impression que Dieu ne bouge pas. Mais ça, c'était tout enfui à l'intérieur de moi. Dieu bouge, c'est clair. Dieu, il nous aide, il vient à notre secours. Mais il y avait quelque chose en moi qui avait été imprimé depuis l'enfance et j'ai assimilé ça aussi à Dieu. Alors, quand il y a des moments de stress, quand il y a des moments où il y a beaucoup de challenges, je pense beaucoup, je réfléchis, je me soucie et je me charge. Et je me laisse apeurer. Et pour moi, c'est comme si Dieu, s'il n'a pas la réponse tout de suite, vous savez, des fois, il faut être patient, attendre la réponse de Dieu. On est là et on dit, Seigneur, réponds. Puis quand ça ne vient pas, ce sentiment que Dieu, il ne se bouge pas, c'est le même sentiment quand mon père ne s'est pas bougé pour m'aider. Et ça renforce vraiment ce manque de confiance. Et ce texte, quand je l'ai lu dans « Montre-nous le Père », je me suis dit, mais je suis sa fille et non son esclave. Je n'ai pas besoin de m'activer pour trouver des solutions. Et Dieu, il veut collaborer avec nous, il veut nous équiper pour qu'on le serve. On n'a pas juste à croiser les bras. Mais cette notion d'enfant qui se laisse chérir, qui peut avoir confiance que Dieu y prendra soin en tout temps, c'est comme si ça a fait un déclic dans mon cœur. Et j'ai toujours cru que Dieu, je pouvais avoir confiance en lui, je le proclame, je le lis dans la Bible, mais en même temps, il y avait ce petit côté-là qui n'était pas encore rassuré au fond de moi. Et puis, quand j'ai réalisé tout ça, que j'ai prié, que j'ai pu pardonner à mon papa, c'est comme si la révélation de la confiance en Dieu, elle est venue encore plus profond en moi. Et j'aimerais juste vous relire la phrase choc qui m'a percutée, pour qu'on puisse la recevoir aussi pour vous peut-être. Croire que Dieu est un Père responsable, ça fait référence aussi peut-être à ce que j'ai vécu, et digne de confiance est une attitude qui l'honore et déclenche son intervention. Et je crois qu'on va dans cette confiance, et si on est complètement conscient que Dieu, il est responsable de nous, il est responsable de notre vie, et qu'il prend soin de nous, on n'a pas besoin d'être stressé, on peut juste se confier à lui. Et j'aime bien se déclencher son intervention. Je crois que c'est là qu'on verra des miracles et des guérisons et des choses incroyables, des réponses à des prières miraculeuses. C'est quand on a cette confiance et que lui, il a le contrôle sur tout. Alors j'aimerais vous encourager à vous sentir fils et fille, à vous laisser aimer et à vous laisser combler dans vos besoins comme lui, il veut. Et Dieu m'a dit, les solutions que j'ai pour toi, je veux te les donner quand je veux et de la manière dont je veux. Et ne te soucie pas, lâche prise. Donc voilà, c'est un encouragement. Soyez bénis.
Merci Diane pour ta vulnérabilité et d'avoir accepté de nous partager cet événement de ta vie. Et en tout cas, s'il y a des choses qui sont remontées chez vous par rapport à votre vécu, eh ben, soyez rejoints, soyez bénis dans ce que vous avez pu vivre et que le cœur du Père puisse vous toucher aussi. Et on a encore un dernier témoignage pour aujourd'hui, c'est Chloé qui avait envie de nous partager quelque chose.
Bonjour, alors moi je viens en spontané pour faire écho au témoignage de Diane et aussi sur la guérison. Donc j'ai déjà témoigné ici sur ma guérison totale d'un cancer du sein triple négatif super agressif en 2021. Et au mois de juillet, je suis toujours suivie par un naturopathe. J'avais rendez-vous et il me fait le test du sang vivant qui consiste à prendre quelques gouttes de sang, d'agrandir 400 fois. Donc c'est hyper merveilleux de voir son sang, c'est hyper cosmique, on voit tout bouger. Et à travers ça, en fait, il voit comment le sang, comment on est à l'intérieur. À l'époque, on voyait, par exemple, je fais un exemple pour que vous compreniez bien, des petits morceaux qui sont un peu brillants, un peu disco. Donc il me disait toujours, c'est des restes de la chimiothérapie, donc c'est des choses chimie, tout ce qui est brillant. Puis on voit les petits mitochondries qui viennent y manger comme ça. Donc le corps est super bien fait. Et au mois de juillet, il m'a refait ce test et il m'a dit, mais waouh, mais il ne reste absolument plus rien dans votre sang. Je n'ai jamais vu une guérison totale en si peu de temps que votre sang, il est parfait. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, mais c'est en fait parce que je vis en toi et je suis la vie que tu es comme sa scène. Puis j'ai eu des révélations chez mon naturopathe. Puis j'ai dit, waouh, mais en fait, c'est ça. Quand le Saint-Esprit vit en nous, il rétablit toutes choses. Et voilà, je voulais juste vous partager ça. Je me suis dit, c'est peut-être un petit encouragement. Qu'il est même dans les choses toutes minimes, comme ça, dans le sang, comme on l'a chanté quoi, avec son sang. Donc voilà, merci.
Merci pour Chloé pour ta spontanéité. Et je trouve ça clôt très bien ce moment de témoignage en disant que le Saint-Esprit vit en nous et c'est grâce à ça qu'on peut vivre toutes ces choses.